Dan Gagnon pour le podcast Tout seul, c'est le numéro 69. C'est la deuxième partie de Je réponds à vos questions sur l'humour. Dans la première partie, qui était l'épisode 68, exclusivement pour les abonnés du Patreon, vous pouvez vous abonner. Patreon.com/Dan Gagnon podcast. Ça commence à 5$ par mois, donc moins de 5€ par mois. Et il y a déjà 12-15 numéros, quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir accès. Les questions, c'est pourquoi j'ai l'impression que les gens ont de moins en moins d'humour, écrivez au scandale. L'humour peut-il être une thérapie? Pourquoi tout le monde n'est pas drôle? Qu'est-ce que l'humour non oppressif? Et à ta connaissance, est-ce qu'il existe une blague sans victime? Et on va poursuivre directement, juste le temps de vous remercier, tous ceux qui écoutaient le podcast. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux en ce moment à partager. Et ça, ça fait tellement de différence pour moi. Merci beaucoup. Surtout que les statistiques 2020 vont s'achever. Donc, c'est toujours un plaisir d'avoir un petit boost. Donc, si vous connaissez des gens qui vous croyez pourraient être intéressés par ce que je dis, merci de leur envoyer, de les taguer, de les mettre en commentaire, etc. Vous pouvez vous abonner, évidemment, mettre des étoiles ou des commentaires. C'est soit sur directement Anchor, anchor.fm. Il y a Spotify. Il y a évidemment Apple Podcasts, il y a Pocket Cast, il y a Deezer. J'essaie d'être sur absolument toutes les plateformes. Donc, un tout, tout grand merci de vous abonner. Ça fait une énorme différence pour moi. On va directement dans le vif du sujet. Donc, la question numéro 6, c'est vos questions que vous m'avez posées sur l'humour. Je tente d'y répondre avec mes connaissances. Frédéric qui demande, est-ce qu'on peut devenir humoriste à 40 ans? Tu peux devenir humoriste à 6 ans ou à 89 ans. Ton âge n'a aucun lien avec la possibilité de devenir humoriste. La raison pour laquelle il y en a moins qui le deviennent à 40 ans, c'est parce qu'à 40 ans, normalement, tu as déjà un job, tu as déjà un salaire, tu as peut-être déjà des enfants, tu as peut-être déjà une hypothèque. Et donc, c'est un risque. Et il y a moins de gens qui sont prêts à prendre le risque. Quand tu as 19, 20 ans et que tout ce que tu as, c'est un bol de Chocapix que tu as payé de tes propres sous, qui est dans l'armoire de tes parents où tu ne paies pas de loyer, bah oui. Ça fait moins peur de dire « je vais essayer de faire du stand-up pendant un an ou deux ». Les exemples sont nombreux. Dave Chappelle, qui est mon idole, le deuxième humoriste préféré chez moi après Mitch Hedberg, a commencé à 14 ans. François Bellefeuille au Québec, qui a gagné tous les prix qui existent au Québec, était vétérinaire. Et c'est plus ou moins à l'âge de 40 ans qu'il a décidé d'arrêter sa carrière de vétérinaire parce que ça l'intéressait de faire du stand-up. André Sauvé, même principe, une quarantaine d'années, il était psychologue, décide de faire du stand-up. C'est juste que faire du stand-up, si tu as de la chance, si tu as trouvé le cheat code, tu vas réussir en quelques années. Et donc, entre j'ai mon métier, j'ai mon salaire et j'arrive à vivre du stand-up, soit il y a 10 ans, si tu as un parcours classique, soit il y a 2-3 ans, si tu es un surdoué, soit il y a 6 mois, si tu es la plus grande légende de tous les temps. Et il n'y a pas tant de ça de gens qui peuvent se permettre de ne pas bosser pendant 6 mois, de vivre sur leurs réserves pendant 6 mois. C'est juste uniquement ça la différence. Mais moi, je dirais, si tu veux le faire, il faut toujours que tu vérifies à quel point c'est important pour toi de le faire. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? C'est comme les gens qui disent « Ah, j'ai toujours rêvé de voyager ». Je dis, en dehors de la pandémie, t'as toujours rêvé de voyager, mais putain, mais t'es à littéralement 6 clics sur ton téléphone et 2 minutes de voyager. C'est pas vrai. Je voudrais voyager, mais je ne suis pas prêt à. Qu'es-tu prêt à sacrifier pour faire du stand-up? C'est ça la question. Parce que tu vas chier. Normalement, tu vas chier très fort. Mais je ne connais absolument zéro personne qui voulait absolument faire du stand-up, qui ont travaillé fort, je veux dire, qui écrivaient tous les jours pendant 5-6 heures, qui faisaient des scènes ouvertes, et qui ont tenu ça pendant des années et qui n'ont pas réussi à le faire. Quand j'étais jeune, mon père m'a dit, peu importe le métier que tu choisis, même si on dit que c'est contingenté ou qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, à partir du moment où il y a une personne qui vit de ce métier, si tu es la meilleure personne dans ce domaine, ben, tu vas en vivre. Tout simplement. Oui, tu peux. Est-ce qu'il y en a qui vont réussir plus facilement que toi? Blindé de gens. Demande à n'importe quel humoriste. Et ça, c'est la beauté des gens qui font un métier de passion. Tu peux poser la question à plein d'humoristes, ils vont te répondre. Ma théorie, c'est qu'un sur trois vont te répondre. Combien ont vu d'autres humoristes les dépasser pendant des années? Combien ont été la pire personne à une scène ouverte pendant un an? Tous les gens que tu connais et que t'aimes ont été mauvais. À part peut-être Chappelle et Eddie Murphy. C'est les deux exemples que j'ai qui étaient directement bons et aimés. Tu vas être mauvais au début. Est-ce que tu es capable d'accepter ça? Est-ce que tu es capable de travailler fort après un succès? Est-ce que tu es capable de travailler fort après un échec? Il y en a qui, après un succès, ont de la facilité à travailler parce que leur ego est boosté. Il y en a qui, après un échec, ont de la facilité à travailler parce que leur ego est touché. Mais est-ce que tu es capable de ne pas te pogner le cul après avoir fait 5-6 bonnes scènes de suite? Est-ce que tu es capable de ne pas te décourager après t'être tapé 5-6 bits de suite? C'est ça qui va déterminer si tu vas être capable. Parce que, allez, les 50 premières scènes, le talent fait la différence. Mais après 2000 scènes, la seule différence, c'est le travail. Question numéro 7. Est-ce que le rythme est plus important que le propos? Oui et non. La personne qui a le meilleur rythme au monde est capable de te faire rire sans faire de blague. Je vais donner un exemple. Une blague d'un humoriste qui s'appelle Walter. Moi, je bois du vin. Les gens disent, c'est pas bon le vin. Je le fais mal, évidemment, là, mais genre, c'est pas bon le vin. T'es mieux de prendre du lait, blablabla, blablabla, bla, bla, mais c'est pas bon le vin. Écoute, moi, je bois du vin, je boirai de l'eau quand les vaches... Fuck, je l'ai raté. Je le refais. Moi, je bois du vin, je boirai du lait quand les vaches, eux, mangeront du raisin. Bon, je l'ai fait d'une manière méga nulle. Lui, il l'a fait des centaines de fois. Il y avait un rire, puis il disait, après, j'aimerais vous inviter à vous prendre un moment pour vous rendre compte que il n'y a pas de vanne, en fait. Mais le rythme de sa phrase, le rythme de ses mots te donne l'impression qu'il y a une vanne. Une autre chose, par exemple, en comédie, tu sais que tu as un applause break, donc des gens vont t'applaudir après deux choses. Après une chanson, même si elle est nulle, et après avoir commencé à dire quelque chose, t'être emballé et parler très, très vite sans prendre ta respiration. Tu dis genre, ah! Je vais prendre la vanne la plus nulle et sexiste qui existe. Tu vois. Ma femme, elle me dit, oh, je vais me préparer, je vais être prête dans 5 minutes. Je dis, bon, OK, 5 minutes, ça veut dire que ça me laisse le temps de, je sais pas, moi, faire la vaisselle, aller faire la lessive, aller chez mon pote, voir comment ça se passe parce que lui a divorcé, puis il veut me raconter comment ça se passe parce qu'il a acheté une nouvelle bagnole, puis après ça, on est allé faire un petit tennis. On fait à peu près 3 matchs, on est parti en vacances, on est parti 3 semaines au Brésil après. C'est quand même super, c'était pendant le temps de la Coupe du Monde, et puis on a rencontré des gens, on a rencontré quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un qui avait une vie spéciale, elle vivait dans des favelas. Après ça, je suis revenu chez moi, j'ai pu refaire ma maison, j'ai bâti ma maison, j'ai arraché ma maison, je suis allé chercher une hypothèque, j'ai construit une autre maison, j'ai fait une femme, j'ai fait 3 enfants, maintenant je suis grand-papa, je suis revenu, puis elle était toujours pas prête. Tu fais ça sur scène, t'as un applause break. Est-ce que c'était marrant? Absolument pas. Et à l'inverse, il y en a qui ont pas de qui te donnent l'impression qu'ils ont pas de rythme, puis qui te font rire quand même. Mais c'est très dur. Ceux qui te donnent l'impression qu'ils ont pas de rythme en ont quand même un, comme quelqu'un qui joue à contre-temps en musique. Et je le dis sans exagérer, si tu veux apprendre à faire de la comédie, puis tu crois que ton texte est excellent, puis tu sais pas comment aller chercher des rires en plus, parce que tu peux plus changer une virgule, achète-toi un métronome. C'est pas une blague. Question numéro 8. Ceux qui font rire le plus grand nombre ne seraient-ils pas les plus drôles après tout? Je ne pense pas du tout, mais je me force à douter pour les questions que ça soulève. Excellente question, Julien. Moi, je pense que l'humour est une science exacte. Et je crois, enfin, sincèrement, que ceux qui font rire le plus grand nombre, ce sont les plus drôles. Parce que c'est que mathématique. Maintenant, ça peut t'emmerder de dire comme, mais putain, mais pourquoi ça fait rire les gens? C'est une blague de merde. Parce que plus tu t'intéresses à l'humour, plus tu comprends les mécaniques. Et l'humour, la meilleure définition, c'est une transgression bénigne. Et il y a un effet de surprise. Si toi, tu trouves que la blague, elle est genre, tu la vois arriver 10 heures à l'avance, ça te fait pas rire. Sauf que il y a toujours à un moment un effet de surprise qui va marcher chez une majorité de gens. Cet effet de surprise ne marchera pas chez des gens qui ne vont pas le capter, ne marchera pas chez des gens qui l'ont vu venir trop tôt, puis entre les deux, il y a des gens qui vont trouver ça rigolo. Ce sont la majorité des gens. Ceux qui font rire la majorité des gens sont les plus drôles. Pour la majorité des gens. Mais après ça, le reste, c'est objectif. C'est subjectif. J'avais vu quelqu'un avant une Coupe du Monde écrire genre, putain, il n'y a aucun autre sport que le foot qui peut te donner autant d'émotions. Essayez de dire « prove me wrong ». Mais le foot, c'est rien du tout. Le foot, c'est de l'air dans un bout de cuir avec 22 personnes qui donnent des coups de chaussure dedans. Jusqu'à ce que ce soit une histoire, jusqu'à ce que tu ressentes des choses parce que tu tiens vraiment à ce qu'une équipe gagne, parce que tu connais quelqu'un, parce que tu as une identification, un chauvinisme, parce que ça fait longtemps que tu as perdu, parce que. Tout ça, ça se passe dans ta tête. Donc, est-ce que la personne la plus drôle, c'est celle qui fait pisser dans ses culottes deux personnes ou celle qui fait rigoler 1 million? Il y a un snobisme, comme dans n'importe quel art, contre les gens qui sont populaires. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Faire pisser dans ses culottes sans personne, c'est difficile. Faire rire 1 million de personnes, parce que même si on dit « Ah, le truc populaire, les gens, ils sont quand même tous différents. » Et quand tu arrives à en toucher 1 million, c'est incroyable. Donc, moi, je pense que ça n'existe pas. Il y a un ou une humoriste le plus drôle par personne sur la Terre. Après ça, c'est juste les facteurs que tu décides de choisir. Un peu décevant comme réponse, Julien, je le sais. Je suis désolé, mais c'est ce que je pense sincèrement. Quelqu'un qui me dit « Relisez des proches ». Avec forcément le questionnement, je disais sur Facebook simplement, est-ce que vous avez des questions sur l'humour? Parce qu'on me demande souvent, genre, est-ce qu'on peut rire de tout? Tous ces trucs-là. Quelqu'un me dit « Relisez des proches ». Et je l'ai fait via une humoriste que j'adore, qui s'appelle Florence Mendez, qui est incroyablement hilarante. Et qui avait fait un post il n'y a pas longtemps, en reprenant un article de Libération, si ma mémoire est bonne, pour justement revenir sur la fameuse citation de des proches qui est utilisée, mais genre n'importe comment, le « Est-ce qu'on peut rire de tout? » Elle dit « Je vous partage cet article super intéressant qui explique la citation culte des proches à retenir. » Et donc, elle a fait un résumé de l'article de Libération que vous pouvez retrouver. « Rire des malheurs qui nous touchent, c'est peut-être choquer des gens qui vivent la même chose, et tant pis. Le rire est pour beaucoup une thérapie, se marrer des trucs atroces est un moyen de dissiper sa propre angoisse. L'important est de prendre ce recul et de comprendre que l'on n'est pas visé personnellement, même si on est concerné par le sujet. » Dédramatiser ne signifie pas que l'on nie les souffrances liées à une maladie, un handicap, une situation tragique, simplement que l'on tente de reprendre le contrôle sur ceux-ci en riant. Bien sûr qu'il faut rire de toutes les petites haines et injustices, même s'il faut pour ça réutiliser des procédés et propos dégueulasses pour en démontrer toute la bêtise et l'absurdité par la suite. L'important est comment, quelle est l'intention de l'humoriste et pour qui, à qui sont destinés mes propos. Faire des blagues affreuses sur la Shoah pour tenter de gérer l'angoisse immense que ce drame génère encore des années plus tard, oui, parce que derrière, il y a un dégoût de l'antisémitisme. Faire des blagues sur les Noirs et les Arabes pour faire marrer les racistes à la pendaison de crémaillère de Marine Le Pen, non. Conclusion, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et Florence qui dit « Je crois que c'est exactement ça ma ligne de conduite en humour, même si bien sûr, parfois, comme tout le monde, il m'arrive de me planter. » Mais cela mène à des réflexions, des discussions passionnantes avec les collègues humoristes de tous bords qui poussent finalement à aller vers les autres et constituent un incroyable enrichissement personnel et professionnel. Voilà. Il arrive des moments où les gens disent les choses mieux que ce que toi tu pourrais les dire, donc tu t'arrêtes là. Je vous incite grandement à suivre évidemment tout ce que fait Florence Mendez. Question numéro 10, Lucrèce. Est-ce qu'il y a une forme d'autocensure dans l'humour? Évidemment. Est-ce que c'est négatif? Pas tout le temps. Moi, par exemple, je m'empêche de faire des blagues de viol parce que je pense pas que ma blague de viol va apporter quoi que ce soit de positif à l'humanité. De l'autre côté, parfois, je travaille sur une chaîne, je voudrais faire une blague, je sais qu'ils vont la refuser. Au lieu de la proposer, je me censure moi-même parce que je veux rester dans les bonnes grâces de mes patrons qui se disent pas « Mais putain, mais c'est chiant, chaque fois qu'ils proposent un truc, on doit le censurer 250 fois. » Est-ce que ça, c'est positif? Et des fois oui, des fois non. C'est ça le problème, c'est qu'aux questions complexes, il faut toujours se méfier des gens qui ont une solution simple, une réponse simpliste. Question numéro 11, est-ce qu'on peut dire d'un bébé soft non qu'il est trop moignon? Et je l'ai laissé là parce que ça revient vraiment à est-ce qu'on peut rire de tout? La réponse est super simple. Si c'est légal, oui. Si c'est pas légal, non. Fin du débat. Et après ça, je reviens avec mon truc de transgression bénigne. Pour moi, l'humour, c'est une transgression bénigne avec l'élément de surprise. Qu'est-ce qui est une transgression pour des gens? C'est différent pour chacun. Qu'est-ce qui est bénin? C'est différent pour chacun. Et j'en parle beaucoup plus longuement dans le podcast 68. Donc, n'hésitez pas à aller le checker si ça vous intéresse. Et question numéro 12, l'humour est-il plus culturel qu'universel? Eh bien là, pour moi, j'ai une réponse très simple à une question très complexe. Donc, méfiez-vous de ma réponse. Non. L'humour est universel. Ce qui fait rire, c'est universel. Ce sont les mêmes techniques, c'est drôle, pareil, partout, pour tout le monde. Ce qui change, ce sont les références. C'est là que c'est culturel. Quelqu'un qui tombe par terre, drôle partout dans le monde. Il y a Milan, dans Milan. Une blague sur Annie Cordy, moins marrant au Liechtenstein, encore beaucoup moins marrant au Chili, certainement très marrant en Belgique, si la blague est bonne. C'est Eddie Izzard qui a fait des shows dans quatre langues, je crois. Il fait anglais, français, allemand, espagnol. Je crois qu'il a déjà fait son show dans les quatre langues le même soir, d'ailleurs. Il a joué dans Ocean 13. C'est une légende. Et tu sais ce qu'il dit? Ce qui est drôle partout. Et vraiment, je vous recommande, et de loin, le documentaire de Yacine Bellous, qui s'appelle, je crois, Voulez-vous rire avec moi, qui va interviewer justement les humoristes allemands, russes, moi, américains, québécois, français, belges, pour justement essayer de découvrir si l'humour est culturel ou universel, et c'est disponible sur Netflix. Et je vais d'ailleurs vous laisser là-dessus, c'est ma recommandation. Et en plus, Yacine est un être de lumière, et vraiment merveilleux. On se revoit, donc on se réentend plutôt pour le podcast, donc voir le 70, donc 70 et le 71, donc 71. Ça va être la fameuse note sur comment je imagine que l'humour va devenir l'avenir de l'humour en 2021. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous aimez ce que je fais. Ça change quelque chose pour moi, c'est gratuit pour vous. Puis si vous m'aimez encore plus, patreon.com/DanGagnonPodcast, plein de podcasts exclusifs. Et puis, à bientôt. Bye bye.